On est déjà rentré dans une nouvelle année depuis déjà quelques semaines. Et pour moi, cette nouvelle année a été tout d'abord l'occasion de faire un petit peu le point. Le point pour moi. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie ces derniers mois. J'ai l'impression que ça fait déjà des années, mais ça fait que quelques mois. Il y a eu un déménagement sur Cannes cet été, une installation, mes débuts en tant que pasteur dans cette église. Et en faisant le point, j'ai retenu surtout que dans ces débuts avec vous, j'ai eu la joie de m'épanouir dans ce que j'ai fait, dans l'enseignement, dans la découverte de chacun, dans les discussions, dans les réflexions, des réflexions aussi pour l'avenir de notre communauté. J'ai reçu énormément d'encouragement, de remerciements, j'ai reçu beaucoup de joie et d'enthousiasme. Et je vous en remercie du fond du cœur. Mais si je veux construire sur toutes ces très belles choses, très positives, je veux aussi pouvoir rester lucide en faisant le point en ce début d'année. Parce que durant ces quelques premiers mois parmi vous, il y a aussi des personnes que j'ai blessées. Comme tout le monde, j'ai été maladroit avec certains. J'ai été négligent avec d'autres. Et je connais mon caractère, hein, je vis avec moi-même depuis 30 ans. Il n'est pas très facile à supporter des fois, donc j'ai pu être colérique ou agressif par moments. Il y a aussi des attentes auxquelles je n'ai pas répondu, des choses que certains espéraient me voir faire et que je n'ai pas faites. Et à cause de tout ça, j'ai pu décevoir, heurter ou blesser certains d'entre vous. Et comme la vie marche toujours dans les deux sens, vous le savez aussi bien que moi, on a pu aussi être maladroit envers moi. On a pu être négligent ou agressif, et ainsi me décevoir, me heurter ou me blesser. Et de la même manière, cela a pu arriver entre vous, être blessé assez fortement par votre frère ou votre sœur en Christ. Nos relations humaines sont faites de choses merveilleuses, mais aussi de problèmes et d'incompréhension. Pas parce que nous ne nous aimons pas, c'est pas le problème, mais simplement parce que nous sommes humains, imparfaits, et surtout parce que nous sommes pécheurs. Alors que faire de tout ça? On peut faire comme si de rien n'était. On se dit, sans le dire, qu'on n'en parle plus. On oublie et on repart de l'avant. Chacun pardonne dans son cœur, en silence, et tout redevient comme avant, comme si rien ne s'était passé. Pour certaines choses, c'est en effet possible. Pour les petites maladresses du quotidien. Par exemple, un ami qui ne vous a pas salué parce qu'il était en pleine discussion avec une autre personne. Il pensait pas à mal, il était occupé, il ne m'a pas remarqué. C'est pas grave. Je ne vais pas le lui faire remarquer à lui. J'oublie. Ou alors, s'il m'est arrivé une chose douloureuse dans ma vie, mais que je n'en parle pas, je préfère garder cette nouvelle pour moi, et qu'un ami vient à blaguer sur ce sujet, sans savoir ce que j'ai vécu. Ça peut me faire mal, ça remue un petit peu le couteau dans la plaie. Mais il ne pouvait pas savoir, vu que je préfère ne pas en parler. Il ne me veut aucun mal. Bon, c'est pas grave, je ne veux pas lui en vouloir, pas besoin de le lui faire remarquer. Toutes ces petites choses du quotidien, ces petites maladresses, on les pardonne en silence, dans son cœur, avec compréhension, et tout redevient comme avant. Mais malheureusement, toutes les offenses ou les blessures ne sont pas de cet ordre-là. Certaines sont plus graves, qu'elles soient volontaires ou non. Elles peuvent être involontaires, mais être graves quand même. Et ces offenses-là créent une blessure, une rupture dans la relation que nous pouvons vivre avec une personne, que la relation que nous avions auparavant. Ça ne met pas fin à la relation, mais ça la fragilise, ça la modifie. Alors, que faire ? Pour nous guider dans cette réflexion, j'aimerais vous lire un texte de l'évangile de Matthieu. Un texte, je pense, très connu, peut-être même tellement connu qu'il en devient un peu usé. mais un texte qui, je le pense, il nous faut pouvoir recevoir avec un œil neuf, avec un cœur ouvert et humble. Et je vous invite à suivre la lecture d'un passage du chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, les versets 15 à 20. Et je ne sais pas où est passé la télécommande. Quelqu'un l'a piqué. Bon, c'est pas grave. On en a toujours une de rechange. Merci beaucoup, David. Voilà. Matthieu 18, les versets 15 à 20. Si ton frère, c'est le Christ qui parle, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Un texte difficile, un texte un peu gênant. J'avoue, j'ai eu du mal à me lancer dans son étude il y a quelques années quand j'ai commencé à vouloir l'étudier. Mais un texte, je pense, qui porte un très très beau message. Ce texte commence par un problème. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard. Nous sommes dans la situation que nous évoquions avant la lecture. Une personne de la communauté est blessée par une autre. Je parle bien de personnes de la communauté, parce que ce texte s'adresse à des frères et sœurs en Christ. Donc, des personnes qui partagent déjà une même foi, des mêmes valeurs, un même enseignement, une même relation fraternelle, une même communion. Pourquoi est-il si important de préciser que ce texte s'adresse à des croyants ? Parce qu'il part du principe que les personnes impliquées vivent selon l'enseignement du Christ. Et le centre, le cœur de cet enseignement vise à aimer Dieu de tout son cœur et à aimer son prochain comme soi-même. Tout ce texte doit être compris sur cette base-là. Si nous cherchons à aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous ne voulons pas être dans la situation que décrit ce texte, être coupable envers notre frère ou notre sœur. Nous cherchons au contraire à cultiver entre nous l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Toutes ces qualités merveilleuses que l'Esprit de Dieu en nous travaille à développer et à faire grandir. Ces qualités que la Bible appelle les fruits de l'Esprit en nous, les fruits de ce travail de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce que nous désirons, mais nous restons humains, limités, faillibles, et donc nous pouvons nous rendre coupables, volontairement ou non, parfois, envers notre frère ou notre sœur en Christ. Le texte utilise un mot fort. Il ne parle pas ici de petites maladresses du quotidien que nous avons pu évoquer au début de ce message. Il parle de quelque chose de plus grave, de s'être rendu coupable envers son frère. Ce mot est fort, il ne faut pas en atténuer le sens. Parce que lorsque nous blessons gravement notre prochain, nous sommes coupables, nous avons commis une faute envers lui. Nous avons péché. Et si effectivement c'est envers notre prochain que nous sommes coupables, c'est aussi et avant tout devant Dieu. Souvenez-vous de la réaction du fils prodigue devant son père, ce fils qui a blessé gravement son père et qui lui dit « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. » Tout acte mauvais envers un être humain nous rend avant tout coupables devant Dieu. C'est pour cela que ce texte utilise ce mot très fort, très grave, parce qu'une situation comme celle-là n'est pas anodine. Elle ne s'efface pas juste en laissant le temps s'écouler. Elle nous rend coupables devant Dieu et envers notre frère. Nous parlons ici de choses graves, pas d'une de ces maladresses anodines du quotidien. Alors, que faire ? Comment s'en sortir ? Eh bien, de la même manière que pour tout acte de repentance, cela débute par la reconnaissance, la prise de conscience du mal que nous avons fait. Et c'est la démarche que poursuit ce texte. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Le but de l'offensé est de faire prendre conscience à l'offenseur du mal qu'il a commis, de la blessure dont il est la cause. Parce que sans cette prise de conscience, il ne peut pas y avoir de démarche de repentance. Repentance envers le frère blessé, mais aussi repentance devant Dieu, envers qui nous nous sommes rendus coupables. L'offensé doit pouvoir faire cette démarche parce qu'il arrive que le mal qui soit commis le soit involontairement. L'offenseur peut très bien ne pas avoir conscience du tout d'avoir blessé son frère. Ça arrive, malheureusement, mais ça arrive. Je pense que ça nous est tous arrivé dans notre vie, de blesser durement quelqu'un, sans même s'en rendre compte. Tout comme il existe des péchés que nous commettons sans le vouloir, du mal que nous faisons sans le savoir, nous pouvons blesser notre frère sans nous en rendre compte. Et si l'offensé ne vient pas nous en faire prendre conscience, il ne pourra pas y avoir de démarche de repentance. Mais je rappelle que nous parlons ici de deux croyants, deux frères ou sœurs en Christ qui cherchent dans leur vie à pratiquer à la fois l'amour du prochain et les fruits de l'esprit. Et si l'offensé doit effectivement aller vers son frère pour lui faire prendre conscience de l'offense, il ne doit pas le faire n'importe comment. Il doit le faire dans cette recherche de l'amour du prochain et de la pratique des fruits de l'esprit, avec amour, paix, bienveillance et maîtrise de soi. Et pour appuyer cet aspect de la démarche, le texte rajoute une phrase un peu étrange. « S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » Une phrase un peu étrange. Souvent dans ma vie, lorsque je suis allé voir une personne qui m'avait blessé, j'y suis allé avec l'intention de me faire justice. On emploie souvent cette expression. On a été blessé, nous réclamons justice pour nous. Quelqu'un nous a fait du mal, c'est pas juste. Nous voulons que la personne reconnaisse ses torts et qu'elle s'excuse, et là nous aurons obtenu justice. Mais dans ce problème entre deux croyants, le plus grave dans l'histoire, ce n'est pas que nous ayons été blessés, c'est déjà grave en soi. Mais le plus grave, c'est que l'offenseur s'est rendu coupable devant Dieu. C'est ça le plus grave. Et si l'offensé agit dans l'optique de l'amour de son prochain, de son frère, il veut à tout prix que ce frère puisse sortir de cette culpabilité. Il ne cherche pas la justice pour lui-même, il cherche justice pour son frère. Il cherche le pardon pour son frère. De la même manière, lorsque le texte préconise de faire intervenir deux ou trois témoins, le but n'est pas de faire venir des personnes qui vont se poser en juge pour me faire justice à moi. Non, le but est de choisir des personnes qui pourront aider mon frère à prendre conscience de sa culpabilité, afin qu'il puisse arriver à la repentance, afin de rechercher la justice pour lui devant Dieu. Et bien évidemment, dans ce cas, on ne choisit pas ses témoins parmi nos amis les plus proches qui seront toujours d'accord avec nous, même les fois où nous n'avons pas forcément raison, mais nous choisissons ceux qui pourront aider au mieux notre frère à prendre conscience de ce qu'il a fait, c'est-à-dire des personnes reconnues dans la communauté pour leur sagesse, leur bonté et leur clairvoyance. Dans la situation que nous raconte notre texte, le vrai perdant n'est pas celui qui a été blessé. Le vrai perdant, c'est l'offenseur, parce qu'il est coupable devant Dieu. C'est pour ça que le texte nous parle de gagner notre frère. Et si l'offensé cherche à aimer son frère, il souhaite le voir se repentir pour être libéré de cette culpabilité. La démarche de la personne blessée doit répondre à l'appel du Christ d'aimer son prochain comme soi-même. Aimer notre frère, même lorsqu'il nous a fait mal. Pourquoi est-ce si important de faire cette démarche avec amour et bonté? Tout simplement parce que si jamais l'offensé vient vers son frère pour lui faire prendre conscience du mal qu'il a commis, mais qu'il le fait avec agressivité ou colère ou méchanceté, eh bien les rôles s'inversent. C'est lui qui devient offenseur. C'est lui qui va à l'encontre cette fois du commandement d'amour. C'est lui qui, à son tour, se rend coupable envers son frère et devant Dieu. Et c'est une escalade qui ne finit jamais. C'est malheureusement bien souvent ce que nous pratiquons. C'est malheureusement ce que je pratique moi-même bien souvent avec mon caractère du Sud bien trempé et qui s'emporte régulièrement. Parce qu'être blessé produit chez nous une douleur et une colère. C'est une réaction normale, humaine. Ressentir cette douleur et cette colère, ce n'est pas un péché. C'est juste la conséquence humaine de ce que nous vivons, de la blessure que nous avons reçue. C'est normal. Mais malheureusement pour nous, notre nature nous pousse à exprimer cette colère que nous ressentons, à la nourrir, à la développer et parfois à faire souffrir en réponse lorsque nous souffrons nous-mêmes. Ça me rappelle cette phrase d'un personnage de fiction assez connu, je pense, Maître Yoda, dans un film de la saga Star Wars. Il disait cette belle phrase: la colère mène à la haine mène à la souffrance. Si nous nourrissons cette colère, elle nous pousse non pas à aimer notre frère, mais à le haïr. Et cette haine nous pousse alors à le faire souffrir à notre tour. Mais l'Esprit de Dieu en nous peut produire alors un miracle, une chose qui va à l'encontre de notre nature, faire que l'amour prenne le dessus sur cette colère, faire que cette colère légitime ne nous pousse pas à commettre à notre tour le mal, mais produire en nous les fruits de l'Esprit de Dieu, l'amour, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi. La situation concerne deux frères ou sœurs en Christ. Si l'offensé vient vers son frère avec amour, paix, patience et maîtrise de soi, alors ce dernier pourra prendre conscience du mal qu'il a commis. Et s'il recherche lui aussi l'amour de son prochain, cette prise de conscience le conduira à l'humilité. Oui, j'ai mal agi envers toi. Oui, je t'ai fait du mal, volontairement ou non. Oui, je t'ai blessé. Cette humilité est le premier pas vers la repentance, le fait de regretter ce que nous avons fait, de le regretter sincèrement et de demander alors pardon. Pardon à notre frère, mais aussi pardon à Dieu. Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, disait le fils prodigue. Malheureusement, notre texte nous présente aussi une situation dans laquelle l'offensé a cette démarche d'amour envers son offenseur, mais l'offenseur ne reconnaît pas le mal qu'il a fait. Malgré plusieurs tentatives, toujours faites dans cette démarche d'amour et de bonté, il ne reconnaît pas le mal qu'il a fait. Et le texte nous demande alors une chose qui semble extrêmement dure et brutale. Il nous demande de considérer cette personne non plus comme un frère, mais comme un païen, comme un non-croyant, qui ne recherche pas l'amour de son prochain. Mais cela ne veut pas dire qu'il nous faut chasser cette personne de la communauté ou refuser de lui parler à l'avenir, non. J'espère bien que ce n'est pas notre attitude face à ceux qui ne croient pas. Cela signifie que cette personne a besoin de réentendre le message de l'Évangile. Il a besoin de prendre conscience à nouveau de cet appel au pardon que le Christ nous lance, le pardon rendu possible à la croix. Cet appel aussi à aimer Dieu et à aimer notre prochain en pratiquant les fruits de l'Esprit. C'est cet appel à l'amour, l'humilité, la repentance et le pardon devant Dieu et devant notre prochain. Tous ne répondront pas à cet appel durant leur vie. Le texte nous le rappelle lorsqu'il nous dit que certains seront accueillis aux yeux de Dieu et d'autres non. Et dans ce passage un peu étrange, où Jésus nous dit que ceux qui seront exclus sur terre par la communauté de croyants dans son discernement le seront aussi au ciel, cela ne signifie pas que nous avons un pouvoir sur le salut ou non des gens. Cela signifie juste que Dieu agit dans la communauté de croyants pour discerner ceux qui ont reçu dans leur cœur ce message d'amour et de pardon. Mais tous n'y répondront pas. Tout ça, c'est très facile à dire, bien plus difficile à faire. Parce que notre nature ne nous pousse pas forcément à rechercher l'amour et la paix, nous l'avons vu. Depuis les quelques mois que je suis parmi vous, j'ai blessé certaines personnes, j'en ai déçu d'autres. Certaines ont eu cette démarche de venir vers moi avec amour pour m'en faire prendre conscience. D'autres sont venus aussi avec amour, certes, mais eux aussi avec un peu de cette colère naturelle et compréhensible. D'autres, enfin, je pense, n'ont sûrement pas osé venir m'en parler. De mon côté, j'ai pu réagir, je pense, avec certains dans l'amour et la repentance, mais je sais avoir réagi avec d'autres, plus dans la colère. Et cela est aussi arrivé dans le sens inverse. On a pu me blesser durant ces quelques mois. J'ai pu aller voir certains avec amour, d'autres avec colère et n'avoir pas osé parler à certains. De la même manière, cela a pu arriver entre vous. Blessé ou être blessé par son frère ou sa sœur en Christ et avoir une démarche, soit plus dans l'amour, soit plus dans la colère. Cela a pu vous arriver. Mais je ne peux parler que pour moi-même et je désire vous demander pardon. Pardon pour ces occasions où je n'ai pas mis en pratique l'amour de mon prochain. Mais nos échecs ne doivent pas nous faire désespérer. Car si effectivement c'est parfois trop difficile pour nous de pratiquer l'amour du prochain, ce n'est pas trop difficile pour Dieu. Et j'aimerais terminer cette prédication par cette promesse merveilleuse que Dieu nous fait à la fin de notre texte. Et je vous relis ce passage. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Les fruits de l'esprit sont produits par l'esprit en nous. Si c'est trop difficile pour nous d'agir avec amour dans certaines circonstances, Dieu peut produire cet amour en nous. Et si deux d'entre nous vivent cette situation, s'ils désirent agir avec amour l'un envers l'autre, mais que c'est difficile pour eux, ils peuvent le demander à Dieu, l'exposer à Dieu. Dieu sera au milieu d'eux et il les exaucera. Amen.